Chapitre 8. Éponine aperçut Kimberly dans l'angle du réduit et alla s'asseoir près d'elle. Elle accepta la cigarette que lui tendait son ami, l'alluma et inhala profondément.
« Super !»
dit-elle en soufflant des ronds de fumée qui partirent à la dérive vers les ventilateurs.
« À condition d'apprécier le tabac et la nicotine, »
commenta Kimberly.
« Je suis sûre que tu adorerais le kokomo. Je sais que tu ne me croiras jamais, mais c'est encore plus chouette qu'une partie de jambes en l'air. Je me contente du sexe, merci. J'ai bien assez de vis comme ça, et si c'est vraiment le pied, je sais que j'en deviendrai l'esclave. »
Kimberly Anderson rit, et ses boucles blondes dansèrent sur ses épaules. Elle avait 24 ans, un de moins que son amie française, qui l'avait rejointe dans le fumoir attenant aux douches, une pièce carrée de 4 mètres de côté, où s'étaient réunies une douzaine de femmes.
Ça me rappelle l'arrière-boutique de chez Willy, à Evergreen, près de Denver,
déclara Kimberly.
Pendant qu'une centaine de cow-boys et autres cutéreux dansaient et buvaient dans la grande salle, on allait s'enfermer dans cette piole pour fumer des joints de kokomo. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici les mecs nous fichent la paix. Ils sont vraiment collants. Encore plus que ces tarés du centre de détention de Bourges. Ils ne pensent qu'à baiser. Ça se comprend. C'est la première fois depuis des années qu'ils n'ont pas en permanence des matons sur leur dos. Quand les gars de Toshio ont saboté les caméras, on a eu droit à une liberté totale. Évidemment, la médaille a son revers. Il y a eu 2 autres viols aujourd'hui.
Kimberly alluma une cigarette au mégot de la première.
Tu as besoin d'être protégé, et je sais que Walter serait ravi de s'en charger. Les ex-détenus me fichent la paix parce qu'ils me savent maquer à Toshio. Mais les gardes de là ici me foutent la trouille. Ces connards se croient tout permis. Un seul m'intéresse. Cet Italien, Marcello machin chose. Hier, il m'a promis de me faire grimper au plafond si j'allais le rejoindre dans sa cabine. J'aurais peut-être cédé à la tentation, mais un des gros bras de Toshio nous lorgnait.
Éponine alluma elle aussi une deuxième cigarette. Les grillés à la suite étaient du gaspillage. Mais les passagers de la Santa Maria n'avaient droit qu'à 3 pauses d'une demi-heure par jour et il était interdit de fumer dans les quartiers surpeuplés. Kimberly se tourna pour répondre à une question d'une femme d'une 40aine d'années et Éponine pensa à ce qui s'était passé en début de traversée.
Nakamura m'a envoyé son intermédiaire 3 jours après l'appareillage. J'étais son premier choix.
L'énorme japonais, un ex-sumo reconverti dans l'encaissement des dettes de jeu pour un cercle de paris clandestin, s'était incliné devant elle dans le salon mixte.
« Mademoiselle Éponine, »
lui avait-il dit dans un anglais laissant à désirer.
« Mon ami Nakamura-san m'a chargé de vous informer qu'il vous trouve très belle et qu'il serait disposé à vous offrir sa protection en échange de votre compagnie et de quelques faveurs. »
C'était une proposition intéressante, bien plus valable que les compromis acceptés ensuite par la plupart des passagères baisables de la Santa Maria. Tout indiquait que Nakamura deviendrait un caïd, mais je ne supportais pas sa froideur. Et je croyais encore que je pourrais conserver mon indépendance.
« On y va ?»
répéta Kimberly. Éponine oublia le passé, écrasa son mégot, et suivit son amie dans le vestiaire où elles se déshabillèrent sous les regards d'une demi-douzaine de femmes.
« Ça te fait rien d'être luqué par toutes ces gouines ?»
demanda Éponine quand elles furent sous la douche.
« Non, je trouve même ça plutôt flatteur. Les filles bien roulées ne sont pas légion et leur donner des envies m'excite. »
Éponine rinça ses seins pleins et fermes, puis se pencha vers Kimberly.
« T'as fait ça avec une autre femme ?»«
Évidemment, pas toi. »
Sans attendre une réponse, l'Américaine fournit aussitôt des détails.
« À Denver, mon premier leader était une lesbienne. J'avais 18 ans et j'étais plutôt bandante. Quand Loretta m'a vue à poil pour la première fois, j'ai cru qu'elle allait tomber raide. Je venais d'entrer à l'école d'infirmière et je n'avais pas les moyens de me payer beaucoup de dope. » Alors j'ai passé un accord avec cette fille. Elle pourrait me faire ce qu'elle voulait, à condition de m'approvisionner en coke. Ça a duré près de 6 mois, pendant lesquels j'ai commencé à fourguer moi aussi de la cam et à m'envoyer en l'air avec le magicien. Pauvre Loretta,
ajouta Kimberly, alors qu'elle se savonnait le dos à tour de rôle.
Elle en a eu le cœur brisé. Elle m'a même proposé de me refiler sa clientèle. Mais vu qu'elle me cassait les pieds, j'ai dit au magicien de la chasser de Denver.
Elle remarqua l'expression réprobatrice de son ami.
« Merde, voilà que tu remets ça. Tu ne vas pas me faire la morale quand même. Je te trouve bien sensible pour une meurtrière. »
Elles allaient sortir des douches quand une petite noire aux cheveux tressés en fine natte approcha derrière elles.
« Kimberly Anderson ?»«
Ouais ?»
confirma l'intéressé en se tournant.
« Qu'est-ce que tu me veux ?»«
Ton mec, c'est bien Nakamura le roi de Jap ?»
Pas de réponse.
« J'ai un service à te demander. »«
Accouche ?»
La fille éclata en sanglots.
« Ruben, c'est mon mec. Il avait pris trop de cette merde que nous fourguent les gardes. Il savait pas à qui il avait affaire. »
« Qu'est-ce que tu as à me proposer ?»«
3 couteaux et 2 joints de Kokomo. » »«
Apporte la marchandise et je m'arrangerai pour que ton Ruben puisse présenter ses excuses à Monsieur Nakamura. »
« T'as une dent contre Kimberly, pas vrai ?»
demanda Eponine à Walter Bracken. Ce black américain corpulent, au regard plein de douceur, interprétait sur un clavier un medley de vieux airs de jazz sans la quitter des yeux.
« Exact !»
confirma-t-il.
« Elle n'est pas comme nous. Son fond est mauvais.
Que veux-tu dire ?»
Il débuta une mélodie aux harmonies moins compliquées qu'il joua pendant près d'une minute avant de répondre.
« La justice met tous les meurtriers dans le même sac, mais moi, je fais des distinctions. J'ai buté un mec qui sodomisait mon petit frère, et toi, tu as descendu un salopard qui faisait de ta vie un enfer. Mais ta copine et son mec ont buté 3 pauvres cloches simplement pour leur piquer de la dope et du fric.
Elle était complètement défoncée. »
C'est pas une excuse. Nous sommes responsables de nos actes. Si je fais un truc dégueulasse, je dois en assumer les conséquences, camées ou pas.
Sa conduite a été exemplaire à la centrale, et tous les toubibs qui ont travaillé avec elle ont dit que c'était une très bonne infirmière.
Il cessa de jouer et la fixa.
Oublions Kimberly. D'accord? Nous avons peu de temps. Tu as réfléchi à ma proposition?
Eponine soupira.
Ouais, Walter. Je t'aime bien et je prends mon pied avec toi. Mais j'hésite à m'engager. Et on m'ôtera pas de l'esprit que tu tiens plus à Malcolm qu'à moi.
Je vois pas le rapport. Malcolm est mon copain depuis mon arrivée dans cette tôle de Géorgie, il y a des années. On a fait de la musique ensemble et on baise seulement quand on n'a pas de femme.
Je sais, je sais. C'est le principe qui me turlupine. Je t'aime bien, Walter. Tu le sais, mais
nous avons quitté la Terre il y a 3 semaines et nous arriverons sur Mars dans 1 mois et demi. Je suis assez costaud pour que les autres te fichent la paix s'ils te savent avec moi.
Le matin même, Eponine avait entendu 2 Allemands parler de la facilité avec laquelle il était possible de commettre des viols ici. Et il n'avait même pas baissé la voix en sa présence. Elle se blottit entre ses bras.
Entendu,
lui dit-elle.
Mais te fais pas d'illusions sur mon compte. Je suis pas un cadeau.
Je crois que Walter a des problèmes cardiaques,
murmura Eponine. C'était le milieu de la nuit et les 2 autres occupantes de la cabine dormaient. Dans la couchette inférieure, Kimberly était toujours sous l'effet du Kokomo et ne s'endormirait pas de sitôt.
Ces putains de règlements sont ridicules. Seigneur, il y en a encore plus qu'à Pueblo. Pourquoi doit-on évacuer les zones communes après minuit? On ne fait pourtant de mal à personne.
Quand on baise, il ressent des élancements dans la poitrine, et ensuite il arrive pas à reprendre son souffle. Tu pourrais pas lui jeter un coup d'œil?
Et ce Marcello, quel con! Il m'a promis un régime de faveur si j'allais dans sa cabine. Pour qui se prend ce mec? Même les gardes n'auraient aucune chance contre le roi de Jap. Qu'est-ce que tu disais, Ep?
Je te parle de Walter Bracken, Kim.
Essaie de te concentrer un peu, bordel. D'accord, d'accord. qu'est-ce qu'il veut ? Ils espèrent tous obtenir quelque chose du roi Jap. Note bien que ça fait de moi une reine, dans un sens.
Son cœur déconne, répéta Éponine d'une voix plus forte. Je te demande de l'examiner.
Mets-la en sourdine si tu ne veux pas qu'il nous arrive la même chose qu'à cette Suédoise. Merde, Ep, je ne suis pas toubib. Tu devrais t'adresser à ce cardiologue dont j'ai oublié le nom. Tu sais, ce mec taciturne.
Le docteur Robert Turner ?
Tout juste. Un vrai pro qui reste à l'écart et ne parle que dans le jargon des médecins lorsqu'il daigne ouvrir la bouche. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu buter deux mecs en plein tribunal.
Comment le sais-tu ?
Par Marcello, tes confidences sur l'oreiller.
Seigneur, me dis pas que tu as baisé avec ce type.
Deux fois seulement. Et si tu veux tout savoir, il est plus fort en parole qu'en acte, et il a un ego démesuré. Au moins Nakamura sait m'apprécier à ma juste valeur.
Il est au courant ?
Tu me prends pour une dingue ? Je tiens à ma peau. Mais Toshio risque d'avoir des soupçons, et à l'avenir je me tiendrai tranquille. Sauf si c'est avec le docteur Robert Turner, naturellement. Je mouille dès que je le vois.
Ce médecin avait examiné Éponine peu après l'appareillage pour des problèmes de menstru.
« Il n'a pas prêté attention à mon corps », se rappela-t-elle.
« Il pense qu'à son boulot. »
L'intérêt qu'elle lui portait la surprenait. Il l'intriguait car il n'avait rien d'un meurtrier.
« Son histoire doit être fascinante », se dit-elle.
C'était au moins la centième fois qu'Éponine faisait ce cauchemar. Le professeur Moreau gisait sur le sol, dans une mare de sang. Elle alla laver le couteau de boucher dans l'évier, puis le posa sur le plan de travail. Elle enjambait le cadavre lorsqu'il rouvrit les yeux. Elle y vit l'éclat de la folie à l'instant où il tendait les bras.
« Henderson ! Henderson !»
Des poings martelaient la porte. Elle s'éveilla. Kimberly et une fille allèrent ouvrir. C'était Malcolm Peabody, l'ami de Walter, un petit blanc d'une quarantaine d'années.
« Le docteur Turner m'a envoyé chercher une infirmière. Venez vite. Walter a eu une attaque. »
Kimberly s'habilla. Éponine descendit de sa couchette et enfila sa robe de chambre.
« Comment va-t-il »
demanda-t-elle à Malcolm.
« Ses jours sont pas en danger, j'espère. »
L'homme sursauta, surpris.
Ah, Éponine, j'avais oublié que tu logeais avec Henderson. Quand je l'ai laissé, il respirait encore, mais...
En veillant à garder un contact permanent avec le sol, Éponine courut vers les quartiers des hommes, sans faire cas des sonneries qui se déclenchaient sur son passage. Un attroupement s'était formé dans la cabine de Walter. Il gisait sur le seuil, les jambes dans la coursive. Elle joua des coudes pour se frayer un chemin jusqu'à lui. Le docteur Turner avait appliqué un appareil électronique sur la poitrine nue de son patient qui tressautait à chaque décharge. Le médecin la remarqua et lui demanda sèchement « Vous êtes l'infirmière ?» Avec gêne, Éponine prit conscience qu'elle n'avait Dieu que pour cet homme alors que Walter était mourant.
« Non, je suis la petite amie de votre malade et je partage la cabine d'Henderson. » L'infirmière qui devrait arriver d'une minute à l'autre.
Kimberly apparut, escortée par deux gardes.
Son cœur a cessé de battre il y a 45 secondes,
déclara Turner.
Nous n'avons plus le temps de l'emmener à l'infirmerie. Je vais pratiquer une incision et utiliser mon stimulateur Comori. Vous avez des gants ?
Pendant qu'elle les enfilait, il ordonna aux spectateurs de s'écarter. Éponine resta figée sur place. Et quand les hommes de l'ASI la saisirent par les bras, Turner leur grommela quelque chose et ils la lâchèrent aussitôt. Il tendit à Kimberly sa trousse d'instruments chirurgicaux, puis incisa d'un geste rapide et précis la poitrine de Walter. Il écarta les lèvres de l'entaille pour mettre le cœur à nu.
« Avez-vous déjà participé à une intervention de ce genre, Henderson ?»«
Non. »
Le Comori rétablit artificiellement la circulation sanguine qui peut emporter un éventuel caillot.
Il inséra le minuscule appareil derrière le ventricule gauche, puis se tourna vers le boîtier de commande et mit le contact. Trois ou quatre secondes plus tard, le cœur de Walter battait à nouveau. « Nous avons une dizaine de minutes pour trouver ce qui cloche », déclara-t-il. Moins de 60 secondes plus tard, il se redressait. « Pas de caillot, pas de valvule ou de vaisseau endommagé. Ça me dépasse. » Il souleva l'organe et constata qu'autour de l'oreillette droite, les tissus étaient décolorés et flasques. Il les toucha avec la pointe d'un instrument et des lambeaux de chair s'en détachèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon Dieu ?» Dans sa paume, le cœur se contracta et un fragment blanchâtre s'effilocha.
« Que ?»
« Regardez ça, Henderson. C'est incroyable. Les muscles sont complètement atrophiés. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Nous ne pouvons plus rien pour lui. »
Ce fut avec les yeux voilés de larmes qu'Eponine regarda Turner récupérer le Komori. Le cœur de Walter cessa de battre. Kimberly se penchait pour retirer les pinces qui maintenaient les chairs écartées quand il interrompit son geste.
« Non, nous allons emporter le corps pour une autopsie. Je dois essayer de tirer tout ça au clair. »
Les gardes et deux hommes allongèrent la dépouille sur une civière et l'emportèrent. Malcolm Peabody sanglotait. Eponine alla vers lui et ils s'étreignirent, puis restèrent assis côte à côte sur la couchette de Walter, sans dire un mot pendant la majeure partie de la nuit.